Radio-FR, les ficelles du métier.
Non.
Brulart, Daniel.
Âge.
54 ans.
Situation familiale.
Père de famille, grand-papa de 5 petits-enfants bientôt.
Domicile.
Fribourg, Vieilleville.
Profession.
Pompe funèbre.
Lieu où vous exercez votre métier.
Fribourg, Vieilleville, Foule des Nègres.
Depuis quand vous exercez le métier de pompe funèbre, croque-mort?
22 ans.
Définition de votre profession.
C'est difficile à répondre à ça. C'est très difficile parce que ma profession, je la sens pas comme une profession. Je suis arrivé là-dedans tout à fait par hasard et je me suis senti tout de suite des ailes. Cette proximité avec les gens, ça m'a tout de suite passionné.
Il y a une légende qui raconte qu'on appelle croque-mort. À l'époque, je crois que c'était au XIVe siècle, il y avait eu une épidémie de peste. Et puis, les gens qui devaient aller brûler les cadavres, eh bien, ils étaient avec des crocs, hein, des espèces de crochets comme ça pour tirer les corps. Et c'est pour ça, paraît-il, que, eh bien, on appelle ce métier maintenant croque-mort. Si on prend la définition Wikipédia, le croque-mort est un employé des pompes funèbres chargé de la mise en bière des cadavres et de leur transport au cimetière.
Vu par tout le monde, c'est ça, ouais. Et puis moi, c'est justement la partie qui est la moindre. Bien sûr, on est croque-mort, cimetière, cadavre, ouais. Ça c'est le truc qui est génial, quoi. Hein. Moi j'ai vécu ça quand j'étais gamin, j'entends, on avait un restaurant, puis on avait un qui on l'appelait Crocus. Alors il tenait en haleine tout le café, hein. Là on existe, on est fantastique, hein. Personne n'ose faire ce qu'on fait, mais moi pas du tout. Moi c'est le contraire, je veux dire. L'amour, on est tous des humains, on va tous mourir un jour, et puis elle est là, elle est tout à fait naturelle. Ça m'a la regarder d'un autre œil.
C'est quoi cette histoire de mise en bière des cadavres?
Le terme est assez marrant, je trouve, mise en bière. Ça, c'est pas du cardinal. Hein. Non, mise en bière, c'est habiller le défunt, le mettre dans son cercueil. Ça, c'est une mise en bière.
Ça se passe comment? Vous n'avez plus de salle ici de préparation du défunt?
Non, on n'a plus de salle de préparation parce que les gens décèdent en majorité à l'hôpital, au home, et de temps en temps au domicile.
Quand on s'imagine croque-mort, on imagine justement le croque-mort dans une salle toute blanche, limite comme un chirurgien, en train de vider des corps, en train de... Concrètement, c'est ça, Daniel, votre travail? Non,
pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'il y a une anecdote, quand on nous téléphone pour du travail, on dit, est-ce qu'il y aurait pour cet été, je viendrais laver les morts, hein, comme s'ils étaient alignés. Il faut bien se rendre compte qu'à l'hôpital cantonal, les décès qu'il y a par jour, un jour ça peut être 4, un jour c'est 1, des fois il n'y en a point, les pompes funèbres arrivent de toute la région. La préparation c'est simple, il n'y a qu'à les habiller, leur donner leur ligne dans leur cercueil, et puis les maquiller ce qu'il faut pour qu'elles soient le plus naturel possible, donner un petit peu de vie à cette mort. Souvent on me dit, ah mais c'est parfait, mamie elle est bien là, elle a un petit sourire, elle est... ils sont contents, et ça j'aime bien.
L'origine du mot croque-mort, monsieur Brulart, eh bien il y a une explication qui me semble un peu bizarre, ça doit être une légende urbaine, rassurez-moi, qu'à l'époque on engageait une personne qui devait aller croquer l'orteil de cadavre pour être sûr qu'il était mort, et que c'est pour ça qu'on l'appelait le croque-mort. C'est vrai ça?
Tout à fait. Ah ouais. Ouais. À une époque, ça s'est fait. Pas avec la bouche, mais c'était avec une pince. J'ai dû le faire. Ils font voir que ça dépend les deux. Il y a des gens qui sont très, on va dire, tactiles. Ils perdent quelqu'un, mais c'est toujours la personne qui est là. Donc, ils approchent même plus le défunt. On arrive chez des familles où c'est eux qui veulent participer. Ils sont là, ils veulent vite le laver. Ils n'ont pas cette barrière. Il y en a qui ont la barrière, puis ça se comprend. On n'est pas tous la même chose.
Mais il y a des gens qui justement, ne veulent pas accepter la mort d'un proche et qui vous demandent de vérifier les faits.
Je vous dis, ça m'est arrivé une fois. Ça, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Vous êtes sûr qu'elle est vraiment mort? Je dis oui, ça, alors ça, je peux vous dire. Je me suis aussi posé la question pour moi-même. Hein. Qu'est-ce qui se passerait le jour où il y a quelqu'un qui ne serait pas mort? Hein, fabuleux, ça.
Ça vous est jamais arrivé, rassurez-moi.
Non, ça m'est jamais arrivé.
She's alive.
Ça, c'est donc une partie de votre travail?
C'est une partie, oui. C'est une partie minime. À une époque, on arrivait justement dans les familles où on préparait le défunt. On était là à la maison, on restait tout un matin, on repassait l'après-midi, il y avait les fleuristes qui arrivaient, ça se vivait tout à fait autrement. Des fois, on devait même laver le défunt. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux, mais les gens sont propres, il y a plus de problèmes.
Bon, le métier de croque-mort a beaucoup évolué parce que la mort se vit aussi de manière différente.
Oui, la mort, elle a évolué par rapport à notre société actuelle. Hein. Dans notre société, on a tendance à se refermer. On s'ouvre sur Internet, on va beaucoup plus loin où on n'est pas dérangé. On a peur de la critique du voisin. Qu'avant, on les assumait, ces critiques. Quand on était en bande, s'il y avait quelque chose qui ne jouait pas, on se disait. Maintenant, c'est pris autrement. Chacun se met dans son cocon. C'est devenu la nouvelle génération. Et puis les deuils, c'est la même chose. Je dirais que maintenant, il faut plus donner de sa personne pour pouvoir contenter tout le monde, pour que tout se passe, pour toute la famille, dans le meilleur des cas. Mmh. Ça, c'est la base.
Donc, le croque-mort, il n'a pas toute une panoplie de seringues, de tubes pour aspirer ou pour injecter des choses dans le corps?
Pas du tout. La thanatopraxie, en Suisse, il n'y a pas grand-chose. Ça ne se fait pas beaucoup. Créer des faux défunts en leur injectant, en voulant leur créer comme les Américains, leur enlever 30 ans, les maquiller. L'amour, c'est l'amour, on doit l'accepter comme elle est. On ne doit pas jouer avec ça. Ça, c'est l'être humain, il veut toujours sublimer tout.
C'est quoi alors, d'après vous, Daniel Brulart, les qualités qu'il faut pour faire votre métier ?
Beaucoup de sensibilité, être humain, être quelqu'un bien dans sa peau. Vous savez, moi, je suis moi. Je fais mon travail par rapport à moi-même. Au début, quand j'ai commencé, je me laissais des fois un petit peu étouffer, hein, parce qu'on arrive, on est le jeune, on est là, on se met, puis on est au bout de la table, mais on est en dessous. Et là, vous vous faites étouffer pendant la discussion. Mm-hmm. Et puis ça porte rien, parce que la famille, elle en ressort, elle n'en sait pas plus, hein, parce que c'est elle qui a dominé la discussion. Ce qu'il faut, c'est pas dominer, c'est faire une harmonie.
Un croque-mort, c'est un maître de cérémonie, quelque part, on pourrait dire aussi. Hein.
Mmh. Oh, tout à fait, oui. Foresight, more sight. The clock on the wall
reads a quarter past midnight. L'une des qualités pour faire le métier de croque-mort, c'est être sensible. Et en même temps, vous m'avez dit, plus je vieillis, plus je suis sensible.
Eh oui, quand j'étais plus jeune, j'arrivais à maintenir ces émotions, que maintenant j'ai un peu plus de peine des fois. Je pense que les hommes, à partir de 50 ans, ils deviennent un peu plus sensibles. On a un peu plus de bouteilles, on a des petits enfants. Quand on est jeune, on veut tout, on veut avancer, ouais, la jeunesse. Maintenant, on devient plus sage. Mm-hmm. Et puis cette sensibilité, il la faut.
C'est vrai que c'est un difficile équilibre, hein, ce métier-là, parce qu'il y a en même temps cette sensibilité qui est nécessaire auprès des familles endeuillées, et en même temps, votre sensibilité personnelle par rapport à la mort, par rapport au corps même, hein, là, il faut savoir aussi mettre des limites, mettre ça de côté, ça ne doit pas être évident.
C'est un état d'être, c'est... Au départ, je pense que toute personne qui arrive là-dedans, il y a un déséquilibre qui se fait. Il y a un stress du moment, qu'est-ce qu'on va découvrir, hein, parce que la télé nous montre des trucs incroyables, alors on fantasme par rapport à ce qu'on nous montre. Hein. Mm-hmm. Ouais, et puis on se rend compte, ben non, c'est tout simple. Bien sûr qu'on a des moments dramatiques, mais c'est ça aussi, le fait qu'on peut rendre service, ça nous donne tellement d'énergie. Et puis bon, il faut savoir aussi couper. Moi, j'ai une famille, maintenant je sais couper les choses, c'est-à-dire que je pars d'un côté, j'ai mon travail, et puis à côté... Je pars en nature, je vais faire de la photo, je vais faire beaucoup de marches. Je vis ça très bien.
Vous le disiez tout à l'heure, Daniel Brulart, hein, plus vous vieillissez, plus vous êtes sensible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir maîtriser vos émotions face à une famille?
Ah, bien sûr. Pas souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois. Oui. C'est pas évident. Ça me dérange plus vis-à-vis de la famille, quoi. Mais maintenant, je l'assume, je dis... Pour moi, je l'assume, je suis comme ça, je fais mon maximum, si ça part, ça part. Je dis, même ça, ça me fait du bien, quelque part. Hein? Que je sais pas, cette émotion me bonifie aussi.
On le sent bien, Daniel Brulart, hein? vous êtes un passionné de la vie qui est croque-mort.
Mais c'est exactement ça. Je suis un passionné de la vie. C'est pour ça que peut-être je suis aussi bien dans ma peau par rapport à tout ça. C'est que l'amour ne me fait pas peur du tout. Pour moi, elle est déjà intégrée. Bien sûr, on ne veut pas dire qu'on y pense. Mais voilà, c'est plutôt de perdre les tiers et puis de, ça sera le manque dans cette famille. La mort, c'est la mort. On ne sera plus là. C'est cet équilibre qui fait souci s'il arrive quelque chose. Heureusement qu'on n'est pas programmé, c'est ça. Heureusement que ça vient n'importe quand, n'importe comment.
Comment vous faites, Daniel Brulhart, pour conserver votre optimisme, pour conserver votre confiance dans la vie?
Ben, ça, c'est, je pense, c'est tout au fond de soi, ça. Ça, c'est chacun à son bagage. Chaque échec dans ma vie, j'en ai eu des échecs, hein, comme tout le monde. Je les ai toujours pris comme bonus. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le prends comme bonus. J'ai toujours été comme ça. Chacun peut se créer une chance, mais il faut la chercher, la chance. Elle ne tombe pas. Et des fois, ça ne marche pas. Moi, j'ai eu des projets, des grands projets aussi. Ça ne marchait pas. Puis heureusement que ça n'a pas marché. Parce qu'aujourd'hui, je suis content. J'ai une qualité de vie. Je ne veux pas venir une entreprise qui a des résultats. T'as fait plus de 10%. Je m'en fous. Aujourd'hui, je vis bien, je peux donner de l'attention à mes petits-enfants, à mes enfants. C'est ça qui est important, c'est pas d'en avoir plein sur le compte.
J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Mais je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Daniel Brulhart? On dit que on choisit la profession de croque-mort essentiellement pour l'argent. Alors tout d'abord, est-ce que c'est vrai qu'on gagne bien sa vie en tant que croque-mort? Et est-ce que vous l'avez choisi pour ça?
Alors moi, je ne l'ai pas choisi pour ça du tout. Oui, les gens pensent, c'est clair. C'est quand même un montant, un dessert. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une grande entreprise, qui était même la plus grande entreprise mondiale à un moment, avec des stratégies comme la Migros, comme tout le monde, les parts de marché. J'ai vécu ce moment-là, qui était passionnant, hein, parce qu'on apprend à découvrir l'autre. On voit que partout dans le monde, c'est la même chose. C'est la rentabilité. On vit avec Monsieur Rentabilité. Et ça, mon entreprise, non. Je marche pas là-dessus. J'ai mis une fois une petite annonce, j'avais 72. Je peux pas aller recevoir 72 personnes. J'ai dit, ben, j'en prends une trentaine. Et puis je les ai pris tous une demi-heure. Donc ça fait un bout, hein, déjà. C'était passionnant.
Qu'est-ce qu'il en est ressorti?
Il en est ressorti qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils cherchent l'émotion. Ils arrivent chez moi, arrive-toi, mort. Moi, j'ai pas peur de la mort. Et presque avec la carte noire, comme Monsieur Dracula qui arrivait, fabuleux. Je dis, vous êtes exactement ce qu'il me faut pas.
Daniel, quand vous étiez petit garçon, c'était quoi votre envie du côté professionnel?
Ah, moi je voulais être cuisinier. Eh oui. On a eu un restaurant, j'étais quelqu'un qui était très, très libre, hein, parce que les parents travaillaient au bistrot, j'étais un petit gangster de la basse à l'époque. Hein. Je rentrais à 2-3 heures du matin, on sortait par la fenêtre, c'était génial. J'ai vécu une jeunesse là-bas fantastique.
Donc, de cuisinier, vous êtes passé à carrossier.
Vous savez pourquoi? Tout con, hein? Depuis l'école, je suis avec ma femme. 16 ans, 17 ans, ma femme me dit, écoute, tu ne te fais pas trop de soucis, vous avez un restaurant, tu ne fais pas d'apprentissage. Je dis, mais non, ma vie est belle, pourquoi, hein? Elle me dit, si tu veux rester avec moi, il faut que tu fasses au moins un métier. Je suis passé dans le quartier, il y a un couple d'heures, j'ai une place de carrossier, j'ai fait carrossier. Voilà, je n'ai pas réfléchi deux secondes. L'horreur. Je n'aimais pas la poussière. J'ai mordu, j'ai continué, puis je suis devenu passionné.
Alors qu'à la base, c'était pas quelque chose qui vous attirait forcément?
Pas du tout. C'était peut-être le côté véhicule, voilà, parce que tous les jeunes, hein, à l'époque, on avait tous le nez contre les voitures, on regardait tous dedans le compteur, combien, 220. Il y avait beaucoup de marques de nez de gamins, hein, sur les voitures à l'époque.
Et alors, de carrossier à croque-mort?
J'étais indépendant, j'avais une carrosserie, j'ai fait une maîtrise fédérale et j'avais un grand projet sur Grange Paco pour faire une carrosserie. Et puis, tout s'est écroulé. Il n'y a rien qui jouait. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme, écoute, la carrosserie, ça vient fini. J'ai dit, on change tout. Et puis, je regardais dans la liberté. Je dis, tu vois, directeur chez Michelin, il avait téléphoné, ils m'ont fait passer des tests. J'ai regardé un peu plein de choses, style comme ça. Puis, je vois, il y a une annonce. écrire sous chiffre, cherche directeur pour une société. Je dis, ben, je vais voir ce que c'est. Et puis je vais là-bas, me dis, voilà, ce serait pour une société à Fribourg. Il ne voulait pas me dire ce que c'était. Je lui dis, mais c'est quoi? Et après, il me dit, ouais, mais écoutez, M. Hollard, c'est des pompes funèbres. Je dis, ah bon, c'est intéressant ça. Je connaissais rien du tout. J'ai dit, ça, c'est pour moi. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Il faut aussi dire qu'il y avait quelqu'un qui m'a bien fait comprendre ce que c'était. Et c'est ça qui était important. Du reste, il est toujours en place, puis c'est quelqu'un qui est très connu dans les pompes, c'est quelqu'un de très bien. Il m'a fait comprendre ce que c'est, il m'a boosté, il m'a créé l'émotion que je vais avoir. J'ai dit, ah, ça c'est quelque chose pour moi. Puis, ah, comment annoncer ça à la maison? Mais tout le monde autour de la table, les enfants, dit, voilà. Papa, il a décidé de faire quelque chose. Il aimerait bien, mais il veut que tout le monde soit d'accord. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai ouvert la discussion, voilà. Il a dit, voilà, travaille avec les morts. Oh, papy, toi, tu peux. Oh, ouais, ça, c'est pas de problème. Le premier, le petit gars, c'était trop. J'ai ouvert la discussion, puis je dis, ben, on y va déjà avec vous, hein, c'est pas. Mais si vous voulez, au départ, j'étais prévu pour diriger une entreprise. J'étais pas pour aller faire la mise en vie. Je me posais même pas la question. Parce que vis-à-vis de l'amour, j'étais déjà. J'avais déjà vécu les deuils de mon grand-papa, tout ça. J'étais totalement bien vis-à-vis de ça. Mais j'ai tout de suite voulu voir comment ça se passait. Il faut faire les mises en verre. Je me suis tout de suite investi pour connaître exactement le métier. Et puis c'est parti comme ça, quoi.
Il y a besoin d'une formation de nos jours pour devenir croque-mort?
Il existe une formation. Il existe le brevet fédéral. Mais il faut un apprentissage pour le faire. Il faut un apprentissage et puis il faut travailler quelques années dans une entreprise pour finir. Je veux dire, ça prend sur le tas. Hein. Va vivre, va dans d'autres places, voir du vécu. Et puis le vécu, il faut changer de place, il faut le voir, il faut affronter les gens, il faut voir les problèmes qu'il y a dans la société. Tu dois en premier emmagasiner avant de pouvoir servir et puis comprendre quelque chose.
Mmh. Est-ce qu'il y a des moments dans votre profession de croque-mort où on rigole?
Oui, bien sûr. Moi, c'est un petit peu paradoxal, mais je suis tout en sourire. Mon fils aussi, on est les collaborateurs. Je pense que c'est nos positivités qui créent ça. On est tellement positif vis-à-vis de la vie. Des fois, je leur dis, faites attention parce que ça pourrait être pris comme mal, quoi. C'est ça qui fait qu'on supporte bien. Puis je vois peut-être dans des moments durs, si vous, une fois vous êtes dans des conditions dramatiques, de levée de corps, d'accident, il y a une espèce de, je sais pas, une espèce de, un cocon qui se met où c'est notre façon de nous défendre. Et puis c'est pas seulement moi, hein, je vois c'est un peu tout le monde, même la police. On se comporte comme ça, sans penser plus loin, c'est une façon de se défendre contre cette situation qui est exceptionnelle.
Est-ce que pour être croque-mort, il faut être croyant?
Alors, je suis très croyant, mais je ne suis pas croyant du point de vue de ce que l'homme a inventé. Ça peut en choquer quelques-uns. Je sais qu'il y a quelque chose, je respecte toutes les religions. La religion, c'est un état d'être. Ce n'est pas le fait d'aller prendre une océan. La religion, elle est en vous. C'est votre attitude qui fait la religion. Mmh. Ce n'est pas d'aller deux, trois, je vous salue, je ne sais pas qui va changer. C'est avant, puis c'est comment on se comporte vis-à-vis de l'autre. Même quand on n'est pas d'accord, même si quelqu'un qu'on n'aime pas, on doit quand même le respecter. Ça, c'est la base.
Vous, vous croyez à la vie après la mort?
Alors, ça, c'est très ambigu. La vie. J'ai pas de réponse, comme tout être humain, on peut pas donner de réponse. On donnerait une réponse positive. Oui, il y a la vie pour, hein, parce que les gens ont peur qu'il n'y ait plus rien. Mais je sais pas, Tania, avant que vous étiez là, vous étiez née, est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que quand on n'était pas, on n'y était pas? Et puis peut-être quand on sera plus, on sera plus tout simplement.
Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Radio FR.
22 ans dans la vie d'un croque-mort, un reportage signé Tania pour Radio FR.
Afin de vous plonger un peu plus dans l'univers des pompes funèbres, nous vous invitons à voir ou revoir Departures, un film japonais qui retrace l'aventure d'un violoncelliste professionnel au chômage qui répond à une annonce pour un emploi d'aide au départ, imaginant avoir affaire à une agence de voyage.
Ou sur un ton plus léger, la comédie américaine J'ai épousé un croque-mort.
Pour plus d'informations concernant la formation de croque-mort, renseignez-vous auprès de l'Association Suisse des Services Funéraires, la SSF, en vous rendant sur www.bestatter.ch.
Et comme l'adresse ne le dit pas, nous, on vous le dit,
le site est en français.
Cette émission est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour découvrir d'autres ficelles d'un métier.
Bonsoir Elodie.
Bonsoir Tania.